Un accident mortel de la circulation cet après-midi à Canala. Accident frontal entre deux véhicules qui s'est produit à la sortie de la tribu de Mia. Les détails dans ce journal. Alifou, plus de peur que de mal la nuit dernière pour un plaisancier. Il était à bord de son voilier à la dérive après avoir dématé. Vous entendrez Martin Blanchard, directeur adjoint du COS NC dans ce journal. Un incendie cet après-midi à Nouméa. Les pompiers sont intervenus en fin de matinée sur la colline du Sémaphore. Le feu a pu être rapidement maîtrisé. On vous emmène de nouveau au Salon des collectionneurs dans cette édition Découvrir la passion des pièces de monnaie. Et puis du sport et du rugby, le retour d'Antoine Dupont avec le Stade Toulousain. Le champion olympique de rugby à 7 sera remplaçant demain. Bonsoir à tous et bienvenue dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Et à la une de l'actualité, cet accident de la circulation survenu à Canala cet après-midi. Une personne a perdu la vie alors qu'un homme est activement recherché. Michael Geneski.
Oui, il s'agit d'un choc entre deux voitures survenues à la sortie de la tribu de Mia vers 14h40. La collision qui s'est produite pour une raison encore indéterminée entre les deux véhicules a donc coûté la vie à une conductrice âgée d'une vingtaine d'années seulement. Pour le moment, pas plus de précisions sur les circonstances de ce drame, si ce n'est que le conducteur de l'autre véhicule a pris la fuite à pied après les faits. Il est donc activement recherché. Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les gendarmes pour faire toute la lumière sur la mort de cette jeune femme. Ce nouveau drame sur nos routes porte le bilan des accidents de la circulation à 19 victimes en Calédonie depuis le début de l'année.
Plus de peur que de mal la nuit dernière au large de Lifou avec une intervention en mer pour un sauvetage. Des moyens importants ont dû être déployés pour venir en aide à un plaisancier. Il était à bord d'un voilier à la dérive après un dématage. Le naufragé a finalement pu être secouru sain et sauf. Les détails de Martin Blanchard, directeur adjoint du COS NC.
17h30 environ, un navire sous pavillon australien a déclenché sa balise de détresse. Donc il était à 27 nautiques au nord-est de Lifou, donc ça fait environ une cinquantaine de kilomètres. On a envisagé très rapidement l'engagement d'un hélicoptère et d'un avion pour prendre contact avec lui. Donc le voilier a confirmé qu'il était en détresse, il n'avait plus de propulsion et il avait perdu un mât également à 5h du matin. Au lever du jour, l'hélicoptère Puma a pu arriver sur zone en étant décidé par le gardien de la marine et donc il a pu élitreuiller le skipper qui ensuite a été amené directement au Medipôle pour évaluation de son état de santé. Alors très simplement, il aurait pu dériver pendant des jours et des jours. Il tombait à court de vivres, à court d'eau, donc ça aurait été une situation dramatique.
Martin Blanchard, directeur adjoint du COS NC. Trois adolescents arrêtés après l'incendie de mercredi à Dumbéa, à la pointe à la Dorade. Ils ont été déférés devant le tribunal. Les trois jeunes ont entre 13 et 14 ans et ne sont pas connus de la justice. Ils s'étaient d'ailleurs filmés en train de commettre les faits. Pour rappel, six départs de feu avaient été découverts dans un terrain attenant à deux maisons qui avaient été touchées par les flammes. Les trois jeunes seront jugés à l'audience du tribunal pour enfants le 11 décembre prochain. En attendant, l'un d'entre eux a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que les deux autres l'objet d'une mesure éducative judiciaire provisoire. Un feu de brousse rapidement maîtrisé à Nouméa ce samedi à la mi-journée. Les pompiers ont été prévenus vers 11h45 pour un incendie qui sévissait sur la colline du Sémaphore. 11 pompiers et 4 véhicules ont pu rapidement stopper la propagation de l'incendie alors que le vent attisait les flammes en direction de la vallée du Tir. On parle environnement à présent avec cette vigilance concernant les chenilles processionnaires. Certains de ces insectes ont été détectés à la Wengi, à Bouloupari,
Michael Geneski. D'apparence inoffensive, ces chenilles peuvent en réalité être dangereuses pour les animaux, voire pour l'homme. On les retrouve en général dans les gaillacs. Les conséquences d'un contact entre les chenilles processionnaires et des animaux de compagnie peuvent être mortelles dans les cas les plus graves. Écoutez les précisions de Fanny Jugy, inspectrice en santé animale pour le CIVAP dans la section 40. Quarantaine et santé animale.
Les risques, c'est souvent les chiens, voire les chevaux et peut-être d'autres animaux qui vont ingérer ou jouer avec des chenilles et du coup les soies peuvent avoir des conséquences graves, voire mortelles des fois, rarement mais ça peut arriver. Et donc les consignes, c'est d'éviter de promener les animaux dans des zones où on sait qu'il y a des chenilles. Donc ça va être plutôt là où il y a des litières de gaillacs par exemple, elles aiment bien ces zones-là. Après, ne pas toucher les chenilles soi-même et éviter que l'animal il aille jouer avec. Empêcher son chien de se gratter et il faut les rincer abondamment à l'eau froide, voire faire lécher une crème glacée au chien si jamais il en a ingéré ou qu'il a essayé d'en manger, bref, qu'il en a au niveau de la bouche. et puis il faut contacter le vétérinaire.
Pour le moment, aucun cas médical n'a été signalé. Pour l'homme, le risque existe également, mais il est moins important. Le contact avec des chenilles processionnaires peut entraîner des réactions urticantes, des inflammations du système digestif ou encore des problèmes au niveau des voies respiratoires.
Merci Mickaël Juneski. 17h50 sur Radio Rythme Bleu. On marque une première pause publicitaire dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants et on parlera notamment de l'actualité en Martinique, la situation qui reste très tendue sur l'île.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Et la suite du journal avec vous, Léo Fichou.
Et la situation qui reste extrêmement tendue en Martinique, des pillages, des incendies volontaires ou encore des avions déroutés, l'île s'embrase. La mise en place d'un couvre-feu et l'interdiction de manifester ne suffisent pas à ramener le calme. Donc en Martinique, les habitants protestent depuis septembre contre la vie chère. 3 personnes sont décédées en marge de ces violences. Pas moins de 30 policiers et gendarmes ont été blessés. Et face à cette situation chaotique dans cette île des Antilles, les négociations se poursuivent entre les services de l'État, les autorités locales, mais aussi le collectif à l'initiative du mouvement contre la vie chère. Une table ronde a débuté hier, mais aucun accord n'a pour le moment été signé. Les discussions sont toujours en cours. Florin Ossu, correspondant pour Europe 1 en Martinique.
Et pour le moment, 2 points majeurs semblent poser problème. D'abord, la question du plafonnement de la différence de prix entre la Martinique et la métropole. Maximum 10, voire 15%. À l'heure actuelle, cet écart tourne plutôt autour de 40% en moyenne pour l'alimentaire. Les militants du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, le mouvement qui a lancé cette action le 1er septembre dernier, eh bien ces militants veulent des garanties légales pour l'application de cette mesure. Le second point délicat à traiter concerne le nombre de produits qui verront ainsi leur prix encadré et surtout baissé. L'idée au départ était de bloquer une liste d'environ 4000 articles dits de première nécessité, mais les négociations continuent pour agrandir au maximum cette fameuse liste. Si aucun accord n'est trouvé cette nuit, les différentes parties pourraient se retrouver au cours du week-end pour poursuivre les négociations.
Florin Ossu, correspondant pour Europe 1 en Martinique. L'actualité nationale, et c'est une décision qui était attendue, l'agence de notation Fitch maintient la note de la dette française au niveau AA-, tout en plaçant la France sous perspective négative. Le ministre de l'économie a annoncé prendre acte de cette décision au lendemain de la présentation du budget 2025. 60 milliards d'euros d'économies sont prévus. Une mesure en particulier pourrait rapporter 1 milliard d'euros supplémentaires à l'État, une hausse de la taxe sur les billets d'avion. Hier, le patron d'Air France KLM parlait d'un nouveau coup dur pour l'ensemble du transport aérien. Constat et colère partagée par Pascal Deïsaguirre, le PDG de Corsair, mais aussi président de la FNAM, qui représente les acteurs français de l'aérien.
Vous savez que le secteur aérien en France est déjà très lourdement taxé. La France est déjà le pays en Europe, sur les 27 pays, qui taxe le plus lourdement son transport aérien. Sur un vol domestique, le pourcentage des taxes représente 40% du prix d'un billet d'avion. Et sur un Paris-New York, c'est pratiquement 20%. Alourdir de 1 milliard d'euros, ce qui est absolument considérable, ne va faire qu'accentuer ce déclin et nous handicaper dans la réalisation de tous les efforts pour décarboner notre industrie. Parce que nous allons devoir bien sûr répercuter ces hausses. Vous savez que nos marges sont très très faibles, donc on va devoir augmenter le prix des billets d'avion. Donc en fait, c'est comme un impôt déguisé. Il est certain qu'une fois encore, nous allons dégrader la compétitivité du transport aérien français.
Autre secteur impacté, la justice, qui va voir son budget diminuer de 500 millions d'euros. Un sondage CSA indique que 80% des Français estiment qu'il faut emprisonner systématiquement tous les étrangers sous OQTF, auteurs de crimes et délits, en attendant leur expulsion.
RRB 17h55.
En politique, c'est également la tension qui monte encore d'un cran entre la France et Israël. Emmanuel Macron a jugé hier tout à fait inacceptable que des casques bleus soient visés par des tirs de l'armée israélienne au Liban. 4 au total ont été blessés ces 2 derniers jours. L'ambassadeur d'Israël en France a été convoqué pour donner des explications. Depuis Chypre, où il participe au sommet Med9, le chef de l'État a haussé le ton. Jacques Seret est envoyé spécial à Chypre pour Europe 1.
Comme le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni, Emmanuel Macron se montre ferme et intransigeant vis-à-vis de l'État hébreu.
Il est tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne tolérons pas que cela se reproduise. Et je remercie les collègues dans Semaine 9 d'avoir une parole très claire à nos côtés sur ce sujet.
Le président français qui réitère son appel à cesser les exportations d'armes utilisées à Gaza et au Liban.
Nous le savons tous, c'est l'unique levier qui pourra aujourd'hui y mettre un terme. Encore une fois, soyons là aussi explicites, ce n'est en aucun cas un appel à désarmer Israël contre les menaces qui s'exercent contre ce pays et ce peuple ami, mais un appel à stopper toute déstabilisation supplémentaire en cette partie du monde.
Car le chef de l'État n'en démord pas. À ses yeux, la stabilité et la paix ne viendront que par les solutions diplomatiques.
Jacques Seret, envoyé spécial d'Europe 1 à Chypre. Et de son côté, Israël se défend d'avoir tiré en direction d'une menace près d'une position de la force intérimaire des Nations Unies. L'actualité dans le Pacifique. En Australie, la Cour suprême de l'État du Victoria a condamné un jeune homme de 22 ans à 8 ans de prison après l'avoir reconnu coupable d'avoir perpétré des actes de terrorisme en 2021. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
L'individu avait utilisé de l'essence et des allumes-feu pour déclencher 2 incendies de forêt à proximité immédiate des habitations d'une banlieue de Melbourne. Aux policiers qui l'avaient arrêté, il avait prétendu être un djihadiste agissant pour le compte de l'État islamique. La police fédérale, celle du Victoria et les agents de l'ASIO, le service australien de renseignement intérieur, avaient toutefois convenu qu'en allumant ces incendies, l'individu avait commis des actes terroristes. Il avait également enregistré un serment d'allégeance à l'État islamique. Autant de faits qui lui ont valu d'être condamné par la Cour suprême du Victoria à 8 ans de prison, peine qui a été assortie d'une période de sûreté de 6 ans. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
17h58, on marque une dernière pause publicitaire dans ce journal. Restez avec nous, on reviendra sur le Salon des collectionneurs juste après cette pause. Salon des collectionneurs qui attire beaucoup de monde depuis ce matin.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
Et la suite du journal avec vous, Léo Fichou.
Et la suite du Salon des collectionneurs, c'est l'événement qui se déroule tout ce week-end à l'Hôtel de Ville, oui. Michael Juneski.
Évidemment, cette année, la collection de mobilettes, Solex et autres cyclomoteurs captivent tous les regards dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Mais il y a beaucoup d'autres choses à découvrir puisque nous pouvons tous être un jour ou l'autre un peu collectionneurs. C'est le cas de ceux qui partagent la passion des pièces de monnaie anciennes, à la rencontre donc des passionnés de trésors dans ce salon.
Les pièces françaises. Bon, je regarde surtout par curiosité, je collectionnais avant, donc je regarde si on trouve un petit trésor.
Vous êtes un ancien collectionneur, mais vous avez toujours l'œil averti, c'est ça?
C'est ça. Et j'ai gardé les plus précieuses et les plus petites. J'avais 17 kilos, donc j'étais obligé de tout abandonner.
Est-ce que ça porte un nom, la collection de pièces?
Oui, c'est une numismatique.
Je m'appelle Alighieri William, collectionneur de coquillages principalement, aussi de pièces de monnaie en argent, en or.
Ça vous vient depuis combien de temps cette passion?
Depuis l'enfance, voilà, moi j'étais numismate déjà étant assez jeune, vers les 8-10 ans, j'ai fait les billets de banque, les pièces de monnaie, voilà.
Vous en avez combien vous-même ?
Ouais, je compte pas, c'est plus en poids, quoi, des milliers.
En poids alors ?
Des dizaines de kilos de partout.
Les pièces dont vous êtes le plus fier peut-être ?
Bah, les pièces royales et les écus, voilà, du Henri IV en or, ce genre de pièces, voilà, les pièces de l'époque. Où il y avait vraiment une vraie valeur, parce qu'il y avait la valeur métal, quoi. Les gens, quand ils payaient une somme, c'était adossé à un étalon or ou argent.
Où est-ce que vous êtes allé dénicher ? Là, on peut parler de véritables trésors.
Bon, en France, généralement, c'est les écus, tout ça, il faut les acheter en France. On n'en trouve pas ici, on n'en trouve pas très peu en Calédonie.
Être présent sur ce salon et rencontrer des passionnés, ça vous fait quoi ?
Ben, c'est bien, ça crée un peu une effervescence, une synergie. On revoit des gens qu'on ne voyait plus. Ça socialise aussi les gens de se revoir et puis ça permet de partager un peu plus.
Et l'affluence qui reste constante depuis l'ouverture de ce salon des collectionneurs, un rendez-vous en partenariat avec RRB qui se poursuit donc ce dimanche jusqu'à 18h à l'hôtel de ville de Nouméa.
Et on part du côté de Pointe-Bout, ambiance festive sur l'hippodrome de la commune avec la 10e édition de sa fête agricole. Près de 80 stands sont sur le site et différentes animations sont proposées aux visiteurs, notamment des concours, des jeux équestres ou encore un lancer de claquettes. Le rodéo est encore en cours avec Yann Peraldi, le maire de Pointe-Bout.
Ça se passe plutôt bien. Alors là, on est sur la monte des chevaux. Alors, une vingtaine de montes sur chevaux sont prévues et la même chose pour les taureaux. Alors, des petits temps morts, mais c'est un petit peu normal hein, au niveau de la gestion. Mais le public est au rendez-vous. Alors, on est sur notre pic de fréquentation de la journée. Il y a du monde. Difficile d'estimer, mais on doit approcher les 4000 personnes, là, je pense.
La 10e édition de la fête agricole de Pointe-Bout, c'est jusqu'à 19h sur l'ancien hippodrome de la commune. Et puis du côté de Nouméa, le 16e festival, la première séance a refermé ses portes au Rex ce soir, Kélinda Boicou.
Un rendez-vous familial désormais incontournable, une semaine de projection de films, d'animation et d'activités de spectacle pour jeunes publics était programmée et soigneusement concoctée par l'association Jeunes Étoiles. Le bilan avec Hélène Singer, coordinatrice et programmatrice du festival La Première Séance.
Alors la première phase nouméenne, on est super satisfait de cette édition hein, qui n'est certes pas comme les autres. Les habitudes du public ont un petit peu changé, mais la fréquentation reste sensiblement la même. Donc on est vraiment ravis et on voit aussi que le public a répondu présent et qu'ils sont ravis d'être avec nous, partager du cinéma et des spectacles. C'est très familial, les familles viennent ensemble, les parents profitent en même temps et même les grands-parents en même temps que les enfants. Donc c'est vraiment transgénérationnel comme on aime et diversifié comme on aime.
Au niveau de la fréquentation, est-ce qu'on a des chiffres ?
Oui, on est à peu près à 4750 pour les séances de Nouméa et puis on enchaîne avec les décentralisations la semaine prochaine. Donc décentralisation, ce sera Dambéa, Mondor, Coné et Pointe-Bout.
La 16e édition du festival La Première Séance est clôturée à 16h30 avec le film À la poursuite du diamant vert au Rex à Nouméa.
Et on reste justement à Nouméa. Rendez-vous demain à 18h en l'église du Vœu. Un hommage à Gabriel Fauré sera rendu en chant choral par les choristes du groupe Les Alizés, qui est dirigé par Marie-Hélène Viplier. Et puis enfin, direction Farino avec le marché de Mamie qui animera demain la place de la mairie de Farino. Ça se passe de 8h à midi.
RRB 18h03.
À la une de l'actualité sportive, on parle de rugby ce soir avec forcément le début de la 6e journée de Top 14, Mickaël Juneski.
Oui, et en point d'orgue ce dimanche, Antoine Dupont qui devrait faire son retour sous les couleurs de Toulouse après une longue pause hein, depuis les Jeux Olympiques en rugby à 7 où il a décroché l'or avec l'équipe de France. La superstar de l'Ovalie française devrait revenir en tant que remplaçant donc dans une confrontation face à Clermont. Il sera aux côtés du Calédonien Peato Mauva, titulaire, lui, sous les couleurs de Toulouse. Coup d'envoi de ce match à 6h05 ce dimanche pour nous. Les autres rencontres verront des oppositions dès ce soir entre le Racing 92 et Toulon à partir de 23h30. Puis en simultané à 1h30 du matin, des matchs entre Bayonne et La Rochelle, entre Montpellier et Vannes, Pau et Castres. Et enfin l'Union Bordeaux-Bègle, leader du classement qui recevra Perpignan.
En rugby toujours, mais au féminin cette fois.
Et les joueuses de l'équipe de France avec les sœurs Féléou d'origine wallisienne qui sont au Canada pour la suite du Women 15. Demain matin à 9h45, heure de Nouméa, les Bleus seront opposés au Black Fern, la Nouvelle-Zélande. C'est la troisième et dernière journée de cette compétition qui rassemble l'Angleterre, l'Irlande, le Canada, les États-Unis et donc la France et la Nouvelle-Zélande. Les tricolores avaient perdu leur premier match contre les Canadiennes avant de battre les Américaines le week-end dernier.
Et on passe du rugby au football avec la suite de la Ligue des Nations.
Et des rencontres à suivre demain matin, des belles affiches même pour le compte de la troisième journée de compétition. Un match Espagne-Danemark dès 5h45, mais aussi une confrontation en Pologne-Portugal à la même heure. Et un peu plus tôt, la Croatie fera face à l'Écosse.
Et puis en tennis, place ce soir aux demi-finales du Masters 1000 de Shanghai.
Le dernier carré est le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner qui sera opposé au Tchèque Thomas Maratch, tombeur de Carlos Alcaraz au tour précédent. Et puis l'autre demi-finale verra une opposition entre l'Américain Taylor Fritz et le Serbe Novak Djokovic, on le rappelle, qui a déjà remporté à 4 reprises ce tournoi.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Et le sport côté calédonien, on reparle force athlétique avec notre représentant devenu jeudi vice-champion du monde master, Axel Raymond, revient sur le territoire.
Il l'avait annoncé, il l'a fait. L'ancien champion de taekwondo a réalisé une performance magistrale en Afrique du Sud au championnat du monde de force athlétique masters. Malgré les émeutes qui l'avaient privé d'une participation au championnat de France, il a pu être repêché grâce à ses résultats et a donc décroché un titre de vice-champion du monde en Afrique du Sud. Avant de quitter le pays des Springboks, il nous a fait part de sa réaction.
Avec l'équipe de France, j'ai eu la chance de décrocher un titre de vice-champion du monde en développé couché, en soulevé de terre et en squat, et un titre de vice-champion du monde au total. C'est une grosse surprise pour moi et puis surtout une grande fierté pour la Nouvelle-Calédonie. Et j'espère surtout maintenant, j'ai les yeux tournés vers les championnats d'Europe qui se dérouleront en février, que j'espère être appelé par l'équipe de France parce qu'il y a bien sûr le système de sélection par le championnat de France que je n'ai pas participé, mais maintenant que j'ai le titre de vice-champion du monde, j'espère être dans la sélection. En tout cas, c'était une très belle compétition. Franchement, je suis vraiment fier de ramener la médaille pour le pays.
Axel Raymond, l'ancien champion de taekwondo, désormais titré mondialement en force athlétique, qui a réalisé cette aventure sans aucune aide. Une volonté de sa part, étant donné la crise qui touche la Calédonie. Vous aviez pu entendre son coach Kenny Wendt dans nos précédentes éditions.
Sur le territoire du football, avec la suite du trophée du Grand Nouméa.
Et de nouveaux matchs ce samedi avec la confrontation d'Imbéa Tiga Sport et l'AS Wedge qui fait face à Horizon Sport. On rappelle le classement à l'issue des 8 premières journées de ce tournoi. Magenta et Horizon Sport qui se partageaient la première place. Le Mandor était troisième. Trois équipes ensuite à égalité d'Imbéa Tiga et Wedge. Gaïcha est septième. Enfin, l'OSI et Melec sont lanterne rouge.
Et en tennis, le tournoi Senior Plus du Receiving qui est lancé.
Avec une trentaine de participants inscrits dans une bonne ambiance pour s'affronter sur les cours du receiving. Écoutez les précisions d'Éric Janot, il est le juge arbitre du tournoi.
Ça va durer toute la semaine. La seule difficulté qu'on a, c'est que la compétition tennis est en baisse régulière, malheureusement. Et là, on n'a qu'une bonne trentaine de participants sur la semaine, alors que normalement, ce genre de tournoi, c'est plutôt 70-80. Donc, on est en baisse totale. Ben, c'est dommage, mais on essaie quand même de maintenir ce petit lien social, en fait, parce que c'est les anciens qui jouent là, hein. C'est les joueurs les plus âgés, donc c'est assez bon enfant. Ce sont des compétiteurs avant tout, hein. Donc ils jouent pour la gagne quand même, mais ça se finit toujours autour d'un verre et ça se passe très bien, quoi. Donc, c'est ça l'essentiel du tennis, justement.
Le tournoi Senior Plus du Receiving durant une semaine, donc les pratiquants âgés de plus de 35 ans s'affrontent sur les cours du Receiving dans une ambiance conviviale. Finale prévue samedi prochain.
C'est donc la fin de cette page sport et on termine cette édition avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Maxime.
Exactement. Alors, bonsoir à tous et bien pas de vigilance particulière. Tout d'abord, pour cette nuit, en début de soirée sur le nord, le ciel sera bien nuageux avec parfois une ondée sur la pointe nord-est, puis le ciel se dégagera. Sur le sud, des plaques de nuages bas se feront plus nombreuses, mais le temps restera sec. Sur l'ouest, le vent deviendra rapidement faible. Ailleurs, il mollira entre 10 et 15 nœuds d'est-sud-est. Sur la pointe nord, il restera compris entre 15 et 20 nœuds. Et les températures minimales seront en légère baisse ce soir. Elles varieront entre 15 et 18 degrés. Localement 19 à 21 degrés sur la pointe nord et de 12 à 13 degrés sur le sud-ouest. Demain matin, tandis que des nuages stagneront sur la chaîne, l'est et la pointe sud, d'autres circuleront aux loyautés. Sur l'ouest et la pointe nord, derrière les nuages élevés, le soleil sera bien présent. L'alizé d'est-sud-est atteindra les 10 à 15 nœuds, localement 15 nœuds sur le sud-ouest en fin de matinée et de 15 à 20 nœuds de la pointe nord-est à Belle-Epe.
Merci Maxime pour toutes ces précisions sur la météo. On se retrouve à 19h pour un prochain point sur l'actualité.